Le cinquantenaire de l'indépendance, on en parle dans Café Service.
Mardi 22 juin, émission spéciale en direct de la commune de Matete. De 9h à 11h, retrouvez-nous au quartier Mango 1 et participez à l'émission.
50 ans d'histoire, ça se partage dans Café Service. Mardi 22 juin, en direct de Matete à partir de 9h sur Radio Capi.
Bien, comment aider un enfant de nature fainéant ou paresseux? Vous avez un enfant qui ne sait rien faire, si ce n'est de se prélasser sur le fauteuil en train de regarder la télé, ou de s'allonger sur son lit, ou encore qui adore voir d'autres personnes travailler à sa place, faire des choses à sa place. Sa lourdeur vous cause des soucis. Comment aider votre enfant à se débarrasser de sa fainéantise ou de certaines habitudes qui ne sont pas bonnes? On en parle avec Isidore Bamana. Bonjour.
Bonjour Daniel.
Vous êtes éducateur à la vie. Pour un tel enfant, un fainéant, un paresseux, qu'est-ce que les parents, quelle est la démarche que les parents peuvent suivre pour l'aider à sortir de cette situation?
Oui, merci. Je pense que le cas que vous soulignez là est un cas qui se place parmi les enfants à caractère difficile ou les enfants à problème dans le processus d'éducation. Cela pose beaucoup de questions aux parents, et parfois ils baissent les bras, parfois ils ne voient pas très bien ce qu'ils peuvent faire pour aider l'enfant à aller de l'avant. Mais tel que vous avez décrit, j'aimerais d'abord ajouter qu'il y a parfois une paresse qui se manifeste au cours de l'activité.
Oui.
C'est-à-dire l'enfant en commençant à faire quelque chose, parce qu'il rencontre une petite difficulté ou un obstacle, il baisse les bras, il dit « bon, je renvoie à demain ». Où il dit, bon, ça peut rester, ça ne fait rien.
Oui.
C'est aussi une forme de paresse quand on a commencé à faire quelque chose, qu'on n'arrive pas au résultat escompté. Et nous vivons ce genre de paresse dans beaucoup de gens, non seulement chez les enfants, mais aussi chez les adultes qui entreprennent des choses et qui n'arrivent pas à la fin.
Oui.
Mais parce que vous parlez de l'enfant qui ne fait rien, pour moi, comme d'habitude, pour essayer d'aider cet enfant-là, il faut chercher à savoir quelle est l'origine de son état. L'origine, en premier lieu, nous pensons pour nous qu'il y a dans cette origine l'attitude des parents. Il y a une attitude négativiste chez les parents qui décourage les enfants à fournir des efforts et qui les amène à la paresse. C'est par exemple, quand un enfant commence à marcher à quatre pattes ou même quand il commence à marcher sur ses jambes, il aime s'approcher des adultes et regarder ce qu'ils sont en train de faire.
Mmh.
C'est une façon pour lui d'apprendre à travailler, mais même se mêler à une activité qu'on a commencé à faire, peut-être nettoyer les habits, peut-être nettoyer, faire la lessive, faire la vaisselle. L'enfant s'approche et souvent les parents l'écartent. Les parents disent, écoute, rentre dans ton coin, tu viens abîmer ce que moi j'ai déjà commencé à faire.
Mmh.
Et quand on le fait régulièrement comme ça devant un enfant, on lui apprend petit à petit à ne pas travailler, à ne pas fournir des efforts. Mais aussi, l'enfant peut arriver à la paresse par sous-alimentation. Si l'enfant n'est pas suffisamment alimenté, c'est vrai qu'il va avoir un état de santé médiocre. Et dans son état de santé médiocre, dès qu'il essaye de fournir des efforts, c'est la fatigue, soit psychologique, soit la fatigue de son cerveau, soit la fatigue physique, et il abandonne. L'autre, c'est un peu plus poussé, un enfant peut souffrir d'alcalose, c'est-à-dire absence d'acidité dans son sang.
Oui.
En ce moment-là, il peut se réveiller en bon état, penser qu'il peut commencer à travailler, et dès qu'il se met au travail, la fatigue lui arrive parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie dans son sang, et il n'arrive pas à continuer son travail.
Oui.
Ça, c'est sur le plan physique. Et sur le plan psychologique, il y a aussi tout un tas de choses.
Oui.
Ça, j'ai relevé dans mon guide pratique d'éducation familiale, un document qui date d'il y a très longtemps, écrit par Maurice Thiesse. Il y a des enfants qui n'ont pas confiance en soi. C'est-à-dire, ils ne se croient bon à rien. Ils disent, si j'ai commencé à faire quelque chose, ils commencent à douter, ils commencent à se dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je pourrais produire des résultats satisfaisants dans ce que je suis en train de faire? Et ce manque de confiance en soi entraîne chez lui un complexe d'infériorité vis-à-vis de ses camarades. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans le quartier, lui il dit « bon, moi ici j'ai toujours été comme ça, donc je ne suis bon à rien, autant me retirer, rester sur ma chaise et regarder les autres faire parce qu'ils le font très bien. »
Oui.
Mais une autre origine assez grave à laquelle on ne pense pas tellement, c'est l'atmosphère morale dans la famille. Il y a des enfants qui ont sujet de sévérité de la part de leurs parents. L'enfant ne peut pas bouger de la maison, l'enfant ne peut pas aller jouer, l'enfant doit être tout le temps concentré. Bon, cet état-là n'arrange pas l'enfant et à un certain moment, il risque de tomber dans l'oisiveté, il risque de se dire « bon, moi, je suis persécuté dans cette maison ». Et ça lui entraîne la paresse dans sa vie.
Oui, alors Isidore Bamanaï, certaines personnes affirment que y a des enfants qui deviennent paresseux à cause des parents. Par exemple, un enfant gâté, un fils à papa, il est tellement choyé, il n'est pas puni, voilà. Si une personne essaie de porter la main, sa maman intervient, ne touchez pas à mon enfant. Donc c'est comme un petit prince. Alors cela peut entraîner aussi la paresse.
Tout à fait, c'est un petit prince à qui on apporte tout, on nettoie ses habits, on les repasse, on lui apporte à manger. Quand il crie, tout le monde accourt. C'est aussi dans des familles où on a des domestiques ou des femmes de ménage. Les enfants, on ne les laisse rien faire. Il se réveille à 9h, il va se laver, il commence à gueuler sur la bonne pour dire est-ce que le déjeuner n'est pas encore prêt. Un enfant comme celui-là, c'est vrai qu'il n'apprend pas à faire beaucoup de choses dans sa vie.
Oui.
Il va tomber dans l'oisiveté. S'il est encore tout petit, qu'il n'a pas encore commencé à aller à l'école, c'est clair que, bon, s'il a peut-être un téléviseur dans la chambre ou il a des jouets dans sa chambre, c'est tout ce qu'il peut faire. Il se réveille, il attend qu'on vienne les laver. Donc, cette attitude-là entraîne aussi beaucoup la paresse. Nous connaissons des cas de filles qui, à l'âge de 18 ans, 20 ans, elle va dans le mariage et n'a pas encore appris à tenir la cuisine. Et ça fait des problèmes avec son mari, et ce sont des situations assez graves. Mais si je reviens à l'atmosphère morale dans la famille, je disais sévérité, mais c'est aussi la dispute entre les parents. Si les parents sont régulièrement en dispute, même s'ils sont en instance de divorce, même s'ils sont déjà séparés, ça peut décourager totalement les enfants, et les enfants vont se verser dans la paresse et dire « bon, la vie ici elle n'est pas bonne à vivre, ça ne sert à rien ».
Voilà, Isidore, on y revient, le temps de recueillir la question d'Augustin Katanda depuis Kindu, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Augustin.
Bien, je veux savoir juste la différence entre un enfant fainéant et un idiot seulement. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés idiots de naissance comme ça. Et ma deuxième préoccupation, c'est de savoir comment aider les enfants qui sont apparemment fainéants pour qu'ils émergent dans la vie future. Et je veux savoir aussi si les parents n'ont pas une part de responsabilité dans ça, parce que nous voyons que les parents ne poussent pas vraiment leurs enfants à se comporter normalement.
Merci Augustin, Isidore.
Oui, merci Augustin. Je crois que s'il est assez bien clair que l'enfant idiot, c'est un enfant qui a une insuffisance dans son développement mental, qui a un quotient intellectuel inférieur à la moyenne et qui n'est pas capable de, par exemple, étudier et avoir de bons résultats au niveau de l'école. Mais un enfant paresseux, c'est un enfant normal, mais qui ne fournit pas assez d'efforts dans sa vie pour réaliser quelque chose ou qui commence à réaliser quelque chose et qui laisse tomber les bras devant une difficulté quelconque. Donc c'est là la différence. Mais quand vous dites l'implication des parents, j'ai justement commencé par évoquer l'attitude des parents qui décourage les enfants à déployer les activités. Vous savez, quand un enfant a 2 ans, 3 ans, il est très mobile, il est plein d'énergie. La façon pour lui de se fatiguer un peu, c'est de courir à gauche, à droite, c'est de toucher à ceci ou à cela. Et que souvent les parents interviennent pour dire « oh, ne venez pas ici, vous venez déranger mon travail ». Si c'est quelqu'un qui est couturier ou qui est menuisier, l'enfant veut s'approcher, il veut toucher les rabots, il veut toucher la scie, et les parents réagissent en disant « écoute, ne viens pas ici, tu vas te blesser ». En ce moment-là, on est en train d'inculquer à cet enfant une attitude de paresse qu'on va combattre plus tard, peut-être avec moins de succès. Donc, nous étions à l'atmosphère morale dans la famille.
Oui.
Du fait que chez certains parents, ils imposent des activités moins intéressantes qui n'intéressent pas tellement les enfants. C'est par exemple, l'enfant a fini l'école secondaire, on lui impose une section qui n'est pas à son goût, qui ne répond pas à ses talents personnels. En ce moment-là, fournir des efforts dans ce domaine-là, ça devient pour lui vraiment une corvée et petit à petit, il peut se décourager et laisser tomber. Il y a des parents qui répriment les enfants qui ont des talents, par exemple, dans le domaine de foot. Si un enfant veut aller jouer au foot, peut-être qu'il a assez de talents, les parents interviennent pour dire, écoute, il ne faut pas aller là, tu risques de te casser la jambe et puis toute ta vie sera endommagée.
Oui.
Donc, cette attitude-là amène les enfants dans des sections ou dans des domaines où ils n'ont pas beaucoup de talents. Et quand on n'a pas beaucoup de talents, qu'on ne voit pas très bien ce qu'on peut faire dans ce domaine-là, je crois que le découragement arrive et la paresse s'ensuit.
Oui. Alors, Isidore Bamanaï, certaines personnes déplorent le comportement des parents qui, par exemple, les enfants vont à l'école, il y a des devoirs à domicile, arrivés à la maison, ce sont les parents ou les grands frères qui font les devoirs à la place de l'enfant.
Oui, ça c'est aussi une autre attitude très très négative, c'est-à-dire on apprend à l'enfant que lui ne peut rien résoudre parce que les devoirs, c'est justement une tâche qu'on donne à l'élève pour lui permettre de résoudre les problèmes qui lui arrivent dans la vie quand il est seul. On peut juste lui expliquer quelque chose s'il a besoin d'une explication, mais exécuter un devoir remis à l'école à la place de l'enfant, c'est l'entraîner carrément dans la paresse. C'est plus tard un enfant qui, devant une difficulté quelconque, il va laisser tomber les bras s'il n'est pas auprès de ses parents ou auprès de son grand frère. Et les parents là sont motivés par le fait qu'ils veulent voir leur enfant réaliser de très bons résultats à la fin de l'année scolaire. Mais les résultats là, sont des résultats de l'enfant ou les résultats des parents? Je crois que c'est une attitude négative qu'il faut combattre. Il faut habituer l'enfant à se débrouiller, à trouver lui-même des solutions aux problèmes qui lui arrivent. C'est ainsi que nos enfants sont vraiment des enfants qui aiment des solutions prêtes à porter.
Oui.
Dès qu'il est devant une difficulté, il ne fournit pas des efforts, il ne réfléchit pas pendant longtemps, il ne cherche pas à gauche, à droite, parce qu'il est habitué à se référer à des adultes qui lui donnent des solutions toutes faites. Je crois que c'est une attitude qu'il faut condamner chez les parents. Il faut habituer les enfants à travailler avec un peu de méthode, de telle manière qu'ils puissent réussir dans leur vie.
Radio Okapi réfléchit avec vous sur la solution. En direct, avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parlez, nous transmettons. Proposez, nous discutons. Parole aux auditeurs, de lundi à vendredi dès 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Trésor Makounia nous appelle de Kananga et Jean Delacroix depuis Baraka. Trésor, bonjour.
Oui, bonjour, je dis, j'ai modifié un peu, ce n'est pas Kananga, c'est à Ouvira, dans la province du Sud Kivu.
Voilà, nos excuses, allez-y.
Oui, en fait, je voulais juste poser la question à l'invité qui parle sur la paresse. Je voulais demander le classement d'individus selon leur quotient intellectuel peut avoir vraiment des rapports avec la paresse, parce qu'au niveau de quotient intellectuel, là, on voit les doués, les intelligents, en fait, l'esprit imbécile et idiot. Est-ce que cela vraiment a des rapports avec la paresse?
Isidore Bamanaï.
Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois que quand l'intelligence n'est pas suffisamment développée, cela est dû à beaucoup de causes que nous n'allons pas commencer à évoquer maintenant, compte tenu du temps qui nous reste. Cela peut amener quelqu'un à, quand il réfléchit, qu'il ne trouve pas de solution. C'est vrai qu'on se décourage et on tombe dans la paresse. Mais bon, à leur niveau, ils peuvent toujours essayer de fournir des efforts et arriver au résultat. Donc il a dit, il y a des doués, des intelligents, des moins intelligents, des imbéciles et des idiots, c'est vrai.
Oui.
Et quand on est soit imbécile, soit idiot, fournir des efforts, je crois que c'est un peu difficile. Mais quand on est moins doué, peut-être qu'on peut fournir des efforts et arriver à atteindre des résultats si on se fait confiance en soi-même, si on se dit, tiens, je dois réussir quelque chose dans ma vie.
Bien, Jean Delacroix, depuis Baraka, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui Daniel Katama. Bonjour, monsieur l'invité.
Bonjour.
Ok, moi j'ai deux questions. La première question, à quel âge on peut initier un enfant à se mettre au travail de la maison? C'est la première question. La deuxième question, vous savez, il y a ces parents-là qui font travailler les enfants du matin au soir. Alors, l'enfant doit faire par jour combien d'heures de travail de la maison? Tout comme question.
Isidore Bamanaï.
Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois que ça amorce la plage, comment aider l'enfant à se débarrasser de la paresse. Moi, je pense que du moment que l'enfant s'approche des parents qui sont en train de travailler, cet enfant veut apprendre ce que les parents sont en train de faire. Je crois que les parents devront les laisser, bien sûr, sous leur surveillance, devraient les laisser toucher les assiettes, les cuillères, devraient les laisser commencer peut-être à sortir un gobelet de l'eau. S'il y a une serviette à côté, il peut essayer, comme ils le font eux aussi, à essuyer un gobelet. C'est déjà qu'on l'a commencé à lui apprendre à travailler.
Oui.
Donc c'est très tôt quand l'enfant se manifeste. Il a une année et demie, il a deux ans. Dès qu'il se manifeste, les parents devraient le laisser faire des petites choses parmi ce qu'ils sont en train de faire. De cette manière-là, il les encourage à fournir des efforts, à réaliser des activités dans leur vie. Mais quant à quelles sont les tâches que les enfants peuvent remplir dans la famille, je crois qu'il appartient à chaque famille de planifier les activités et aider l'enfant à avoir un programme d'activité dans sa vie. Quand l'enfant a déjà commencé l'école primaire, qu'il est peut-être en 5e et 6e, même au niveau de 4e, cet enfant doit avoir un programme d'activité par jour. Et en ce moment-là, on devra privilégier chez lui les activités ayant trait à son activité principale, qui sont les études. Dans les tâches à la maison, je crois qu'il n'est pas indiqué qu'on utilise un enfant comme une bonne, qu'on utilise un enfant comme une femme de chambre.
Oui.
Donc, elle doit remplir des tâches assez légères, compte tenu de son âge. Et petit à petit, quand il évolue, il devra apprendre à remplir des tâches assez lourdes.
Mais
et là, j'insiste sur le fait que ce sont les deux enfants dans la famille qui doivent remplir des activités, garçons ou filles. Parce que souvent, on trouve que les filles sont submergées par les tâches ménagères, par les tâches domestiques, et que les garçons, dès qu'ils reviennent de l'école, bon, c'est la télévision, c'est la promenade, c'est jouer au foot, alors que les autres, c'est aller chercher de l'eau, c'est nettoyer les habits, c'est faire la vaisselle, c'est préparer à manger.
Mm-hmm.
Je crois que de cette manière-là, il y a une certaine injustice.
Alors, Isidore Mamanaï, pour les jeunes garçons, par exemple, qui passent du temps devant la télé ou en train de jouer au Nintendo ou en train de dormir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les punir pour les pousser à travailler ou à quel genre d'activité il faut les imposer?
Là, c'est un grand danger parce que quand on reste à regarder la télévision, les émissions ne sont pas tellement sélectionnées pour les enfants. On y voit tout. Et quand on voit tout, certaines images restent dans le cerveau de l'enfant et influent sur son comportement plus tard. Je pense que les parents devront aider cet enfant à avoir des activités intéressantes. Hein. D'abord, les activités qui intéressent l'enfant. C'est pas tellement l'intérêt dans l'oisiveté, mais c'est l'intérêt dans le remplissage des activités qui produisent des résultats. C'est par exemple qu'il se réveille le matin, qu'il se lave, qu'il rentre dans les jardins, qu'il arrose les gazons, qu'il rentre dans les jardins, qu'il arrange une plate-bande de feuilles de manioc, et qu'il revienne, qu'il mange, qu'il se repose, et enfin qu'il prenne ses livres pour commencer à lire si c'est pendant les vacances. Je crois que les parents doivent lutter beaucoup pour ne pas laisser les enfants regarder la télévision du matin au soir.
Oui.
À ce moment-là, je crois que les parents se verront obligés, même d'éteindre la télévision, pourquoi pas la déplacer de la salle où il y a accès commun et peut-être l'enfermer dans la chambre, de telle manière que les enfants ne puissent pas tout le temps rester à regarder la télévision et tout le temps rester à jouer au Nintendo. Je crois que c'est de l'oisiveté et l'oisiveté ne développe pas le cerveau de l'enfant. On peut connaître une baisse dans le quotient intellectuel. Donc il faut habituer les enfants à lire des livres plaisants, un livre, des livres qui donnent une certaine leçon morale. À ce moment-là, je pense qu'ils peuvent récupérer petit à petit. Si les enfants y trouvent du goût, qu'ils commencent à s'habituer, ils vont vraiment les aider à grandir, à être des gens entreprenants dans la vie, à ne pas tourner les pouces. Parce que souvent, nous avons des adultes qui se posent la question de savoir « Mais qu'est-ce que moi je vais faire ? Je n'ai rien à faire. » Alors qu'il y a plein de choses à faire dans la vie.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Norbert Dibelay nous appelle de Kananga. Bonjour. Norbert, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachem.
Norbert.
Bonjour à l'invité Isidore Bavala. Je voulais juste poser la question de savoir, imaginez-vous l'enfant qui est intelligent, est-ce que quand l'enfant vient avec le devoir, est-ce qu'on peut travailler à sa place? Si on travaille, est-ce que c'est mauvais?
Isidore Bavala.
Je crois que si vous avez été attentif et que vous avez suivi l'émission, un auditeur a posé cette question. Et nous avons dit qu'il n'est pas indiqué que les parents ou les adultes ou les grands frères puissent résoudre une tâche, un devoir de l'école à la place de l'enfant. Là, c'est l'habitué à la paresse, là, c'est l'habitué aux solutions toutes faites, et lui-même, il dit, bon, moi, je ne peux pas fournir un effort, j'ai mon père à côté de moi, j'ai mon grand frère, dès qu'il y a un problème, je vais recourir à eux, ils vont trouver des solutions. Non, il faut laisser l'enfant travailler. S'il n'a pas compris qu'il vient demander une explication, oui, on peut l'aider à comprendre, mais ne pas travailler à sa place.
Voilà, on ne travaille pas à la place de l'enfant. Alors Isidore, quel type, vous avez parlé des activités à imposer à l'enfant pour le sortir de la paresse, mais si malgré vos efforts, vous lui donnez une tâche, il n'arrive pas à le faire ou à l'accomplir correctement, tel que vous, selon les résultats escomptés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là?
Oui, merci Daniel. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'avoue que c'est la question la plus difficile dans un cas que l'on présente. Mais quand vous utilisez le verbe imposer, c'est là où peut-être les choses commencent à ne pas très bien marcher.
Oui.
Moi, j'estime que les parents, humblement, doivent négocier avec les enfants, doivent arriver à convaincre l'enfant sur l'utilité d'une activité remplie dans la famille ou dans sa vie ou un devoir qu'on a travaillé à la maison. Du moment qu'on est arrivé à convaincre l'enfant sur l'utilité d'une activité déployée, en ce moment-là, je crois que le résultat va suivre. Imposer, c'est prendre trop de risques. Hein. Imposer des histoires dans la vie de l'enfant, c'est fabriquer un hypocrite. C'est quelqu'un qui fait semblant de fournir des efforts,
oui.
Mais dès que les parents ne sont pas là, bon, il tourne les yeux ailleurs et il commence à faire autre chose. Donc il faut négocier, il faut arriver à convaincre l'enfant sur l'utilité du travail, parce que le travail est une valeur, le travail apporte l'indépendance, le travail développe le quotient intellectuel de quelqu'un. Tous ces arguments-là vont aider l'enfant, parce que d'ailleurs, le travail amène aussi la joie d'avoir atteint un résultat. Et quand dans la vie on a la joie de vivre, on est tout le temps encouragé. Mais ce que les parents peuvent faire aussi, dès que l'enfant a commencé à faire quelque chose, s'il le fait mal, on vient l'aider à faire bien. D'abord, on l'encourage dès qu'il a commencé à faire. On l'encourage, on dit, tiens, félicitations, c'est très bien, mais si tu aurais pu aller dans ce sens, tu atteindrais de meilleurs résultats.
Oui.
Souvent, les parents, dès qu'ils constatent qu'il y a un petit échec qui arrive, ils commencent à condamner, ils commencent à dire à l'enfant, c'est toujours comme ça, toi tu n'es bon à rien, tu n'es là que pour manger, tu ne fais rien dans ta vie.
Oui.
Et en ce moment-là, on lui confirme qu'il est paresseux et on le décourage. Je crois qu'il faut encourager l'enfant qui a commencé à faire quelque chose. Si ce n'est pas bien fait, on l'appelle, on lui dit, ici tu aurais dû faire ça, ici tu aurais dû faire ça. Et on le lui dit gentiment. Et en ce moment-là, il se sent respecté dans sa dignité et puis il adhère à ce qu'on lui présente. Dès que l'enfant adhère à quelque chose, le reste devient très très facile.
Bien, Isidore Bamanaï, éducateur à la vie, intervenant depuis Mbujimayi au Kassai oriental. Je vous remercie.
Merci Daniel.